Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Chérubé Okende est mort dans les circonstances similaires à celles de Floribert Chebeya. Cet acte ne doit rester impuni. Déclaration de la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme. Le directeur exécutif de la VSV exige une enquête indépendante pour élucider cet assassinat et que justice soit rendue, vous l'entendrez. Ituri, le chef de bureau de la MONUSCO demande aux différentes communautés de s'impliquer pour la protection des déplacés qui sont parfois la cible des groupes armés dans le territoire des Djougou, rappelant que 46 déplacés du site de Lala ont été tués le mois dernier par des miliciens. Et puis, le barreau Dio Katanga célèbre depuis hier à Lubumbashi le 55e anniversaire de ce corps pour le bâtonnier Jean-Paul Kitenge. Cette célébration est une occasion pour les avocats de se remettre en question. Le bâtonnier Dio Katanga est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Au mort de Chérubin Okende, la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme condamne l'assassinat du député national et ministre honoraire des Transports. Selon le directeur exécutif de la VSV, Chérubin Okende a trouvé la mort dans les circonstances similaires à celles de Floribert Chebeya. Il ne faut pas que cet acte reste impuni et puisse continuer constituer un recul pour la RDC. Rostem Anketa exige une enquête indépendante pour élucider cet assassinat et que justice soit rendue. On écoute au micro de Jeff Ngoy.
Ce genre de crime, en principe, devrait relever du passé après l'alternance politique en République démocratique du Congo. La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme exige une enquête réellement indépendante pour que les auteurs, commanditaires, exécutants répondent effectivement de leurs actes criminels. À voir la manière dont le député national a été assassiné, cela nous rappelle la tragédie, l'assassinat de Floribert Chebeya Baïzi, ancien directeur exécutif de la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme, disparu la veille, le 1er juin, et dont le corps sans vie a été retrouvé dans la voiture de l'organisation. Il faut que la justice fasse son travail en toute indépendance pour que cet acte, qui ne constitue pas moins un grand recul par rapport aux avancées déjà enregistrées après cette alternance, ne puisse plus se répéter.
Par ailleurs, la mort de Chérubin Okende continue d'alimenter les conversations dans la capitale du Cuivre. Depuis l'annonce de sa mort hier, tout le monde veut savoir pourquoi ce député national, membre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, a été tué. Les uns et les autres se remettent à la justice pour que les auteurs et les circonstances de ce drame soient connus. Jean Gandou nous en dit plus.
La disparition de ce cadre de Ensemble pour la République a plongé dans la consternation de nombreuses personnes. Ces dernières se recrutent aussi bien dans la classe politique que dans la société civile. Et à cela s'ajoutent les réactions enregistrées sur les réseaux sociaux et auprès des citoyens lambda. Pour les acteurs politiques, toutes tendances confondues, les questions qui se posent sont celles de savoir qui a tué Chérubin Okende, pourquoi l'a-t-il tué et pour quelle fin ou encore à qui profite ce crime. Un autre membre de la société civile qui regrette cet acte qu'il qualifie d'ignoble espère toutefois que toute la lumière sera faite afin que la vérité soit connue. Pour un autre, quelle que soit l'issue de l'enquête, la classe politique aura déjà perdu un de ses membres qui devait jouer un rôle dans la société, qui sait. Il espère toutefois que les résultats de l'enquête ne vont pas moisir dans les tiroirs de ceux qui vont les mener. Certaines chaînes de télévision locales ont organisé des émissions au cours desquelles la question de la disparition tragique de Chérubin Okende était débattue parfois avec passion et émotion. Entre-temps, nous apprenons que certaines ONG de défense des droits de l'homme s'apprête à publier un communiqué de presse commun irrelatif. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre réaction après l'assassinat du député Chérubin Okende, c'est celle du docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix demande que toute la lumière soit faite sur cet assassinat. Des détails avec Cynthia Bachizi.
Denis Mukwege parle de crime odieux qui vient d'être commis à l'approche des élections générales. Il condamne avec fermeté ce qu'il qualifie de crime crapuleux. Cela dans un contexte de répression de l'opposition politique à plusieurs reprises dénoncée, souligne-t-il. Ainsi, le prix Nobel de la paix 2018 demande l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cet assassinat et rendre justice. Le docteur Denis Mukwege termine termine son message en lançant une invitation, invitation adressée à toutes les forces vives de la nation, mouvements citoyens, associations, organisations professionnelles, confessions religieuses et partis politiques pour une concertation. L'objectif est de donner une réponse commune forte, appropriée et durable à ces graves violations des droits humains et défendre la démocratie et la paix dans notre pays. Car pour Denis Mukwege, il faut se mobiliser pour sauver la nation en péril. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Pour sa part, la MONUSCO condamne fermement le meurtre de Chérubin Okende et salue la décision des autorités de tout mettre en œuvre pour trouver les coupables et rendre justice. Les États-Unis, de leur côté, condamnent également le meurtre brutal de l'ancien ministre des Transports et exhortent les autorités congolaises à faire avancer rapidement l'enquête promise sur cet acte odieux. Pour Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC, retrouver et traduire en justice les auteurs du crime est une priorité absolue. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, RCA et en République du Congo, recommande que ce crime fasse objet d'une enquête immédiate et que les responsables soient traduits en justice. Alberto Petrangheli, ambassadeur de l'Italie en RDC, plaide pour que pleine lumière soit faite sur ce crime affreux et que les responsables soient livrés à la justice, a-t-il dit. Je vous l'ai dit dans le titre, en Ituri, le chef de bureau de la MONUSCO demande aux différentes communautés de s'impliquer pour la protection des déplacés qui sont parfois la cible des groupes armés dans le territoire de Djougou. Karna Soro précise que cette entité territoriale compte 34 sites sur 75 sur l'ensemble de la province avec 1 700 000 déplacés. Il est difficile de déployer les militaires sur tous ces sites malgré les efforts du gouvernement et des casques bleus pour sécuriser ces personnes vulnérables. Il lance un appel aux leaders communautaires de sensibiliser leurs fils qui ont pris les armes d'intégrer le programme du DDRCS. Karna Soro, chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, s'exprime au micro de Isaac Remoyope.
Nous travaillons aux côtés du gouvernement. Nous avons des militaires en place. Nous avons des systèmes d'alerte précoce. Mais aussi, il faut que les communautés jouent leur partition en appelant les jeunes gens, les jeunes filles à arrêter de s'adonner à ces activités criminelles. Nous avons plus de 75 sites de déplacés. Au niveau de la zone de Djougou, nous avons 34 sites de déplacés. Nulle part au monde, vous pourrez avoir des militaires sur chaque site. Et vous avez des sites de déplacés qui s'étendent sur parfois sur des longueurs de 4, 5, 6, 7 kilomètres. Il y a des militaires, les militaires sont mobiles, les militaires essaient de faire ce qu'ils font, mais je rappelle encore une fois que les enfants qui attaquent ces sites sont des enfants du milieu. Parce que si nous sommes en train de parler de Codeco, nous parlons de Zaïre, nous ne sommes pas en train de parler des étrangers. Nous parlons des enfants du milieu. Les jeunes qui sont dans les milieux sont des hommes originaires du milieu, qui tuent les siens. Donc c'est par là que ça commence. De notre côté, nous allons faire un travail de prévention et je pense qu'il faut aussi que les gens se responsabilisent.
Rappelons que 46 déplacés du site de Lala ont été tués le mois dernier par des miliciens qui poursuivent les menaces dans le territoire de Djougou. Au Nord Kivu, un acteur de la société civile et un officier des FARDC ont été retrouvés morts hier jeudi dans la localité de Mapobu, dans le territoire de Beni. Selon le président de la société civile locale, les victimes ont été enlevées mercredi par des présumés rebelles des ADF. Cette structure citoyenne condamne cette énième attaque qui vise un acteur de la société civile et un militaire des FARDC. André Kitengi pour les détails.
Les corps des deux victimes ont été retrouvés hier jeudi aux environs de 2 heures à Mapobu, un village du groupement de Bambou Bakisiki à environ 15 kilomètres de la localité de Maïmoya dans le territoire de Beni. Il s'agit du deuxième vice-président de la société civile du groupement de Bambou Bakisiki et d'un officier militaire des FARDC. Selon Omar Kalicia, le président de la société civile de ce groupement, les deux victimes sont tombées dans une embuscade tendue par des présumés rebelles des ADF mercredi vers 8 heures heure locale alors qu'ils se rendaient à Mapobu. Les mêmes sources indiquent que les deux hommes n'étaient pas retournés à leur domicile ce soir-là. C'est hier jeudi aux environs de 10 heures que leurs corps décapités ont été retrouvés par des passants. La société civile déplore cette énième attaque dans la région, intervenue après plusieurs alertes aux autorités militaires sur la présence des ADF dans leur milieu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord pour la version de l'armée. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, signalons le pillage présumé hier jeudi d'au moins 100 vaches appartenant à la population locale de Katunda dans le secteur de Osoba-Nyungu, territoire de Masisi. Le comité local de la jeunesse qui livre l'information affirme que ce pillage des vaches a été commis par les combattants de la milice APCLS aux grandes dames de la population. Les autorités et la société civile du territoire ont du mal à confirmer ou à infirmer cette information car la zone est totalement sous contrôle de plusieurs groupes armés et qui se disputent la zone. Gabriel Ouamenia nous fait le point.
Le piège est survenu hier jeudi à Katunda en début d'après-midi lorsqu'une division de la milice de l'APCLS de Janvier Kalairi qui contrôle le secteur allant de Nyambaboko premier dans la chefferie de Baoundé jusque dans le secteur de Katoi était en patrouille dans la zone. Les sources du comité local de la jeunesse de Katunda affirment que c'est un titre de représailles que ces vaches étaient arrachées par ces miliciens à leurs bergers. Ces sources précisent que les combattants de l'APCLS accusent les populations de ces villages d'être en connivence avec les milices rivales à l'APCLS de Janvier Kalairi. C'est notamment une faction de Pareko dirigée par un certain Sendugu Museveni et une faction de la milice Kifuafua dirigée par deux généraux autoproclamés Machano et Birikoriko. Pour le président du conseil territorial de la jeunesse du territoire de Masisi, Luambo Mufuni, il est actuellement difficile de confirmer ou d'infirmer ces cas de pillage des vaches dans cette zone où plusieurs groupes armés font la loi. Cet acteur dut poursuivre les enquêtes avant de donner un bilan définitif de ces pillages présumés. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika. Agitation dans la ville de Kalemie depuis la réhabilitation de la gouverneure de province par la Cour constitutionnelle. Les services de sécurité ont arrêté quelques personnes qui sont accusées d'avoir voulu troubler l'ordre public. Des activistes de la société civile ont été interpellés à l'ANER avant d'être relâchés. Pour Bavon Kalinde, analyste politique, les services de sécurité étouffent la liberté d'expression. Paul Amunanga.
Ce jeudi, l'ANR a interpellé les activistes d'une frange de la société civile du Tanganyika. Ces derniers disent avoir été entendus avant d'être relâchés. Mardi dernier, ils ont fait une déclaration décrétant la ville morte dans le Tanganyika. C'était pour dénoncer, d'après eux, notamment la réhabilitation de la gouverneure. Par ailleurs, le ministre provincial de l'Intérieur a présenté mercredi dernier à la presse trois personnes arrêtées à l'auditorat militaire de Kalemie. D'après Dieudonné Kasaka, ces personnes avaient en leur possession des t-shirts, calicots et autres affiches portant la mention « Non au retour de la gouverneure Jilin Ngungwa dans le Tanganyika ». Pour le ministre Dieudonné Kasaka, ces personnes s'organisaient pour troubler l'ordre public. En réaction, l'analyste politique Bavon Kalinde indique que les personnes arrêtées n'ont commis aucune infraction.
Je suis en train de me demander quelle est l'infraction pour laquelle on peut leur reprocher par rapport au fait qu'ils détiennent seulement les calicots alors qu'ils n'en faisaient pas encore usage. Ils étaient dans des actes préparatifs. Je dis que la gouverneure, à son retour, doit manifester une attitude de rassembler toutes ces personnes qui sont divisées aujourd'hui.
Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Sud Kivu, la question en rapport avec l'érection du groupement de Kamanyola dans le territoire de Walungu en commune rurale n'est pas de l'apanage de la population mais plutôt une matière exclusive des autorités à tous les niveaux. Ce sont là les propos du ministre provincial de l'Intérieur au Sud Kivu en réaction aux manifestations que les jeunes de Kamanyola ont déclenchées la semaine dernière. Ces jeunes réclament l'érection de leur groupement de Kamanyola en commune rurale. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur Albert Labani dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
J'ai tenu une réunion avec toutes les composantes, la société civile, la jeunesse, même les autorités locales. Ils m'ont remis un mémo et j'ai promis même que pour des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial, l'autorité provinciale pourra s'y impliquer très sérieusement. Et pour des questions qui relèvent particulièrement de mon ministère de l'Intérieur, je n'hésiterai aussi pas de m'y impliquer, de trouver des solutions idoines qui s'imposent pour calmer les tensions de la population de Kamanyola. La question relative à la commune rurale, c'est une question qui relève de la compétence nationale. Nous avons promis de transmettre les messages aux autorités nationales pour s'impliquer. Et puis ce n'est pas seulement Kamanyola, c'est une question générale parce que ça concerne plusieurs entités. Il y a des villes qui n'étaient pas prises en compte lors de la nomination des animateurs des ETD. Nous avons promis d'y travailler pour que leurs revendications soient prises en compte.
Actualité internationale.
Plus de 500 Burkinabés, dont de nombreuses femmes et leurs enfants, sont arrivés dans le sud du Burkina Faso après avoir été expulsés du Ghana voisin. La ministre de la Solidarité nationale a expliqué hier que les personnes rapatriées ont été reçues depuis mardi dans trois régions différentes le long de la frontière. Réunis au Caire dans le cadre d'un sommet pour résoudre la crise soudanaise, les sept dirigeants des pays voisins de la nation en guerre ont réclamé hier l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre en Ukraine, a affirmé hier son homologue américain Joe Biden, soulignant que le manque des ressources de la Russie et ses difficultés économiques, il n'y a pas de possibilité pour Poutine de gagner, a-t-il ajouté, alors que les forces ukrainiennes mènent actuellement une contre-offensive pour tenter de récupérer les territoires perdus dans le sud et l'est du pays. Et justement, selon Joe Biden, c'est cette même contre-offensive qui poussera le président russe à la table des négociations.
L'invité.
Le barreau du Haut-Katanga célèbre depuis jeudi, hier donc, à Lubumbashi, le 55e anniversaire de ce corps. Pour son bâtonnier, cette célébration est une occasion pour les avocats de se remettre en question afin de bien assumer leur mission et bien jouer leur rôle pour le bien de la société. Maître Jean-Paul Kitenge, bâtonnier du Haut-Katanga, est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Bâtonnier Jean-Paul Kitenge, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi célébrer la journée du barreau?
Bon, nous célébrons la journée du barreau parce que c'est un anniversaire. Comme vous le savez, le barreau congolais est né le 10 juillet 1968. De deux, c'est pour réfléchir sur l'avenir de notre barreau, faire un bilan, échanger sur des questions de l'avocat, son rôle dans la communauté. C'est aussi pour renforcer la confraternité entre avocats. C'est une occasion pour nous de remettre aussi en question tout ce que nous avions pour permettre aux avocats de se sensibiliser, de sensibiliser la société pour que la société se rende compte réellement de son rôle et de son importance.
Et parlant de la situation des avocats, comment est-elle en ce jour, notamment ceux de votre ressort?
Nous sommes en train de fournir un effort pour que les avocats soient toujours les personnes qui peuvent, dans la mesure du possible, apporter un soutien, une assistance, un appui à l'appareil judiciaire. La situation n'est pas très bonne, la situation n'est pas très mauvaise aussi. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire un effort pour que le rôle de l'avocat soit d'abord compris par la population et que cet avocat joue réellement son rôle. Sa mission, conformément à notre loi organique, dont la loi de 79, qui veut que l'avocat puisse avoir une mission non seulement judiciaire, c'est-à-dire devant les cours et tribunaux, mais aussi sa mission en tant qu'accompagnateur dans le cadre des extras judiciaire.
Bâtonnier Jean-Paul Kitenge, vous avez parlé de la justice et sûrement que vous avez suivi la chef de l'État qui a décrié le fonctionnement de la justice. Et vous, votre corps qui est auxiliaire de justice, comment compte-t-il contribuer au redressement de l'appareil judiciaire dans notre pays?
Oui, nous avons tous suivi le chef de l'État qui a placé un mot par rapport à la justice. Il n'est pas satisfait. Nous, en tant qu'auxiliaire de justice, avocat, nous continuons à lutter contre, par exemple, le cas des violations des droits de l'homme. Nous apportons notre pierre pour, dans la mesure du possible, jouer à cet équilibre de la justice et ramener les choses à un état de droit tel qu'attendu par le chef de l'État.
D'après vous, qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas très bien?
Je crois que ça part de décisions qui sont rendues, non seulement au niveau des cours et tribunaux, mais au niveau de l'instruction ou bien au niveau de la phase préjuridictionnelle qui est une phase privée. Il y a quand même beaucoup à redire en tant qu'avocat, mais nous sommes convaincus qu'avec un peu de volonté, avec un peu de détermination, on peut toujours arriver à faire quelque chose parce que la justice reste un idéal. C'est-à-dire, nous tendons vers une justice. La justice juste n'existait pas encore, mais on fait un effort pour que nous puissions arriver à une justice.
Une certaine opinion indique qu'il y a des magistrats véreux qui seraient aussi appuyés par certains avocats véreux également, ce qui fait que, par moment, il y a certaines décisions de justice qui ne sont pas rendus selon les normes en la matière. Vous, en tant que bâtonnier, quelles sont les mesures qui sont prises pour que ceux qui s'adonneraient à de telles pratiques puissent être remis sur les rails?
Vous savez, nous sommes un ordre. Nous sommes un barreau qui est bien organisé. Nous avons un organe disciplinaire qui est le Conseil de l'Ordre. Et ce Conseil de l'Ordre a pour mission, notamment, de sanctionner les avocats qui travaillent à marge de nos règles déontologiques. Alors, les faits doivent être dénoncés, ce qui est tout à fait évident. Dès que les faits sont dénoncer et que le conseil de l'ordre, le bâtonnier s'est saisi, ou bien il y a des plaintes qui sont déposées contre les avocats, le conseil de l'ordre siège et sanctionne. Et nous pouvons même pousser le raisonnement très loin en disant, au-delà de la déontologie, au-delà de notre éthique, il y a le code pénal qui sanctionne des avocats qui se livrent dans des faits qui sont infractionnels. Donc, nous demandons à ceux qui sont victimes de ces cas de saisir les conseils de l'ordre pour que ces derniers puissent s'instruire et puis voir comment sanctionner.
Pour terminer, est-ce que la population de votre ressort a la culture d'avoir les avocats?
Oui, ça c'est une question qui est très profonde, pour ne pas dire pertinente, la population avoir la culture. Vous savez, l'avocature n'est pas de notre culture. Nous l'avons héritée, nous faisons plutôt un effort pour que la population comprenne. Alors cette population, il faut la distinguer. La population en tant qu'opérateur économique, la population en tant que population civile associée. Ça nous ramène à comprendre une chose, les opérateurs économiques aujourd'hui comprennent que non, ils ne peuvent pas travailler sans l'accompagnement des avocats, ce qui est tout à fait garantissant pour leurs activités, ça c'est un, mais la population civile, n'a pas encore cette culture d'avocat. C'est l'effort que nous sommes en train de fournir chaque jour pour que cette population comprenne que non, elle est obligée de comprendre l'importance de l'avocat.
Bâtonnier Jean-Paul Kitenga, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Le bâtonnier du Haut-Katanga répondait aux questions de Jean Gandou. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.